Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. La découverte a fait la une de la très réputée revue scientifique Nature il y a une semaine. Pour la première fois, une équipe de chercheurs internationaux est parvenue à cartographier le super amas de galaxies dans lequel notre galaxie, la Voie lactée, évolue. Les chercheurs ont reconstitué en trois dimensions ce super continent cosmique qu'ils ont baptisé l'Aniakea et dont ils se sont rendus compte qu'il est 100 fois plus grand que ce que l'on pensait. Une découverte de taille, donc. Parmi les quatre chercheurs qui signent l'article de Nature, deux scientifiques français que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans La Tête au Carré. Hélène Courtois, vous êtes astrophysicienne, maître de conférences à l'Université de Lyon et vous dirigez une équipe de recherche à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Bonjour Hélène Courtois.
Bonjour.
Deuxième scientifique qui a participé à la cartographie de ce super continent cosmique, Daniel Pomarède. Vous êtes ingénieur-chercheur au CEA de Saclay, vous travaillez à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales. Bonjour Daniel Pomarède.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir tous les deux. Vous allez pouvoir nous raconter comment vous vous y êtes pris pour reconstituer en trois dimensions ce super amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons. Comment êtes-vous parvenu à faire ces observations vertigineuses depuis notre minuscule petite planète? Nous verrons que grâce à vos travaux, on sait mieux ce qui entraîne notre galaxie à très grande vitesse. Depuis 30 ans, les scientifiques envisageaient un mystérieux grand attracteur. Vous nous direz en quoi vos recherches font évoluer cette vision des choses. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou via Twitter en utilisant le hashtag l'attaque. Et nous terminerons l'émission avec le quiz scientifique de la semaine avec Florence Porcel. Voilà pour le programme de cette tête au carré cosmique réalisée par Violaine Ballet et préparée par François Mercier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
On commence avec le fait scientifique du jour. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Une bonne nouvelle, ça fait du bien par les temps qui courent. La couche d'ozone va mieux.
Oui, elle est sur la voie de la guérison. Attendue pour 2050, selon les 300 scientifiques qui publient aujourd'hui son dernier bulletin de santé. On parle ici du bon ozone, hein, l'ozone stratosphérique qui constitue cette couche protectrice située entre 20 et 50 km d'altitude au-dessus de nos têtes et qui fait barrage contre le rayonnement ultraviolet du soleil. À haute dose, faut-il le rappeler, les UV peuvent provoquer des cancers de la peau et des mutations génétique notamment. C'est donc une bonne nouvelle que délivre là l'Organisation mondiale de la météorologie et l'ONU. Une bonne nouvelle, cette couche d'ozone, donc sa diminution est enrayée. Sophie Godin-Beckham est chercheuse au CNRS. Elle est aussi directrice de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et elle fait partie des 300 scientifiques qui ont contribué à fournir ce rapport.
La couche d'ozone n'est pas en voie de reconstitution, donc en fait les scénarios évoluent comme prévu. Les composés destructeurs d'ozone voient leur abondance diminuer dans l'atmosphère et l'ozone est stabilisée, c'est-à-dire que sa baisse a été enrayée. On voit quelques augmentations par endroit, donc on est optimiste quant au rétablissement de la couche d'ozone.
Alors vous savez que l'ozone, il y en a partout autour de la Terre et que c'est en fait le trou au-dessus de l'Antarctique qui nous avait alerté quand les satellites l'avaient repéré pour la première fois dans les années 80. Eh bien ce trou au-dessus de l'Antarctique, il continue de se former de façon saisonnière chaque année. Les hivers froids d'ailleurs le favorisent, hein, comme celui de l'année 2010-2011. Mais là encore, il a cessé d'empirer ce trou au-dessus de l'Antarctique et un retour au niveau de référence de 1980 est prévu après 2050. À l'arrivée, donc, selon l'ONU, ce sont 2 millions de cancers de la peau qui auront été évités.
Alors Sophie, à qui doit-on ce bon résultat?
Eh bien, à la volonté humaine, en fait. Elle s'est traduite en 1987 par la signature du protocole de Montréal. Il a interdit à l'époque à l'industrie chimique de produire et d'utiliser des composés bromés et chlorés, les fameux CSC, destructeurs de l'ozone stratosphérique. Les scientifiques avaient calculé le temps qu'il faudrait pour ressentir l'impact. C'est pour ça que cette chercheuse disait que c'est conforme à nos prévisions. Mmh. Et c'est donc ce qui se passe. En 2012, par exemple, les niveaux de chlore et de brome ont baissé de 10 à 15% par rapport à leur maximale atteint à la fin des années 90. Il reste quand même un vilain petit canard. Les tétrachlorures de carbone, ils n'ont diminué que de 1% au lieu des 4 attendus.
Mmh. C'est quand même une super nouvelle. Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose, quand on agit, ça peut avoir des conséquences.
Alors,
à grande échelle.
Hein. Exactement. C'était un problème circonscrit l'ozone. Ouais. Pour le réchauffement climatique, c'est moins facile.
Oui, alors d'ailleurs, cette reconstitution de la couche de d'ozone a-t-elle un effet sur le réchauffement climatique?
Oui, en fait, parce que ces fameux composés bromés et chlorés sont également des gaz à effet de serre et le fait de les supprimer a contribué à modérer le réchauffement climatique. Chaque année, selon le rapport onusien, on a ainsi évité de rejeter l'équivalent de 10 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pourtant, tout n'est pas réglé, souligne Sophie Godin-Beckham. Les CFC ont été remplacés par les HFC et rapidement, il faudra trouver autre chose.
En fait, on a résolu plus ou moins le problème pour l'ozone, hein, puisque les produits de substitution de deuxième génération, les HFC, ne sont pas nocifs pour l'ozone. Mais par contre, ce sont de puissants gaz à effet de serre. Et donc, les modèles prévoient que, à l'horizon de 2050, si on continue au rythme actuel de production de ces HFC, on pourrait avoir des effets radiatifs qui seraient équivalents aux effets radiatifs qu'on avait observés dans les années 90 au moment du pic de production des CFC. Donc évidemment, il faut absolument éviter ça. Et donc le but maintenant, c'est d'essayer de promouvoir des substituts qui ne soient pas du tout nocifs pour le changement climatique.
Bonne nouvelle, ces substituts de troisième génération sont déjà inventés par l'industrie chimique et ils sont en cours de test.
Bien, ben merci beaucoup Sophie Bécherel pour ces bonnes nouvelles.
Prochaine.
Et à la semaine prochaine. Depuis le début de la semaine, nous vous invitons, chers auditeurs, à nous laisser des messages sur la nouvelle boîte vocale de la Tête au Carré au 01 56 40 69 47. Vous êtes déjà nombreux à avoir composé ce numéro. Vos messages seront très prochainement diffusés dans l'émission. Continuez à nous faire part de vos remarques sur les dossiers que nous vous proposons. Vous pouvez aussi nous signaler des événements, des expositions, des manifestations scientifiques qui se déroulent près de chez vous. Bref, intervenez au 01 56 40 69 47. Dans un instant, on part à la découverte du super amas de galaxies dans lequel nous évoluons. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou Twitter avec le hashtag l'attaque. C'était Moodweed, Heavy Metal Bebop 2 sur France Inter dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et nous partons à la découverte du super amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes en compagnie de Hélène Courtois, astrophysicienne à l'Université de Lyon, et Daniel Pomared, chercheur ingénieur au CEA de Saclay. Tous deux font partie de l'équipe internationale qui vient de cartographier ce super continent de galaxies dans lequel nous nous trouvons. Il est donc possible de cartographier l'univers quand on cartographie une région géographique. Hélène Courtois.
Alors, à peu près. Hein. On a en tout cas réussi à cartographier de façon dynamique. Donc, c'est plutôt comme si on faisait de la tectonique des plaques. On fait de la cartographie, effectivement. On appelle ça à quatre dimensions. Donc, on a l'altitude, un petit peu, si vous voulez. Puis aussi, on a les mouvements entre les plaques. Ouais. Ça, c'est la grande nouveauté.
Parce que les galaxies se déplacent les unes par rapport aux autres. Les amas de galaxies se déplacent également les uns par rapport aux autres. C'est en ça que vous dites que c'est dynamique, ça bouge et vous avez suivi ces mouvements.
Voilà. Tout à fait. Les galaxies vont très vite dans l'univers. La nôtre va à 630 km par seconde. Donc là, chaque seconde où on parle, on fait 630 km.
Ah ouais, sans se fatiguer.
Sans se fatiguer, sans être décoiffé non plus. Ouais. Donc effectivement, on a suivi ces courants formés par les galaxies. Les galaxies, c'est un peu comme la pointe des icebergs. Ça nous permet de tracer les courants de matière totale, la matière noire et la matière lumineuse.
Daniel Pomared, on peut vous qualifier de cosmographe. Ça ne vous insulte pas si je dis ça? Une sorte de géographe, de cartographe du cosmos?
Non, en fait, on est un petit peu à bord d'un vaisseau où Hélène serait le capitaine et moi, je serais le cartographe, alors le responsable de la cartographie, celui qui décrit la structure de l'univers sur des cartes. Ouais. Et donc, à l'aide de techniques modernes, de logiciels et de visualisation.
C'est ça. On va le voir dans votre façon de travailler. Hélène, vous étiez là dès le début du projet, c'est-à-dire dès 2006. C'est avant tout un travail d'observation que vous avez mené dans des observatoires, notamment à Hawaï. On en dira quelques mots. Et puis, dans un deuxième temps, vous êtes arrivé avec des ordinateurs pour essayer de modéliser les observations qui avaient été faites, Daniel Pomared.
Oui, c'est bien ça. Donc, on récupère ces observations et on cartographie en fait les courants cosmiques. Et sur la base de la structure de ces courants cosmiques, on est capable de déterminer quelles sont les frontières qui séparent ces structures dont nous parlons aujourd'hui, qui sont les superamas de galaxies.
Alors pour qu'on s'y retrouve dans ces structures, comme vous les appelez, ces superamas de galaxies, on va faire quand même un petit exercice de dézoom pour essayer d'avoir un peu les ordres de grandeur des échelles en tête. Partons de notre planète, la Terre, qui tourne donc autour de son étoile, du Soleil, avec sept autres planètes. Ça, c'est le système solaire. On est dans quel ordre de grandeur déjà à ce moment-là, Hélène Courtois?
Alors là, c'est tout petit hein, par rapport à l'échelle dont on va parler aujourd'hui. Donc de la Terre jusqu'au Soleil, il y a de l'ordre de 150 millions de kilomètres. C'est vraiment tout petit. On ne peut même pas donner... c'est même pas un grain de sable par rapport à la taille du Laniakea, du superamas dont on va parler.
C'est 8 minutes, en fait. 8 minutes à la vitesse de la lumière. Parce qu'après, on va parler d'années-lumière, vous allez voir.
Voilà. Donc là, c'est 8 minutes-lumière par rapport aux centaines d'années-lumière d'envergure que fait ce super...
Non, on va parler de millions d'années-lumière aujourd'hui.
Oui, alors on va y aller progressivement hein, pour atteindre ces millions. Si on est à l'échelle de notre galaxie, donc là déjà, on change d'échelle. Nous étions le système solaire autour d'une étoile. Combien d'étoiles dans notre galaxie?
Voilà, alors dans notre galaxie, il y a de l'ordre de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc une étoile, on rappelle, c'est le Soleil. Autour d'une étoile gravite un cortège de planètes, comme la Terre par exemple. Et quand il y a par exemple 100 milliards d'étoiles, ça forme une île. Au début, on appelait ça des îles. Ça, c'est une galaxie dans l'univers. Alors, après, il y a le vide, jusqu'à la galaxie d'après.
Ouais. Donc notre galaxie, la Voie lactée, 300 milliards d'étoiles, c'est ça,
voilà.
À peu près, avec combien de planètes? Alors c'est une estimation parce qu'on ne les a pas toutes observées, mais combien de planètes gravitent autour de ces étoiles?
Ça, c'est assez difficile à mesurer, mais s'il y a une dizaine de planètes autour de la nôtre, bon, toutes les étoiles n'ont pas des planètes, parce qu'il y a des étoiles plus petites, plus grandes, à différents stades de vie. Mais c'est à peu près du même ordre de grandeur. Si on est en train de parler de centaines de milliards,
ouais. C'est déjà assez vertigineux. Et pourtant, là, on est encore dans un grain de poussière par rapport à ce que l'on va explorer par la suite. Notre galaxie, c'est une grande galaxie par rapport aux autres que nous côtoyons?
Tout à fait. Notre galaxie, donc, qui s'appelle la Voie lactée, c'est une grosse galaxie. On habite à côté d'une autre grosse galaxie, la galaxie d'Andromède. Et autour de nous gravitent une cinquantaine de plus petites galaxies. Mais on habite dans un groupe, ça ne s'appelle pas encore un amas ni un superamas. On habite dans un groupe qui est dominé par deux grosses galaxies et plein de petites, un cortège tout autour de petites galaxies.
Ouais. Notre système solaire se situe où dans notre galaxie à nous ? On est plutôt au centre de la galaxie, on est sur le bord, Daniel Pomarède ?
Alors ça c'est un sujet qui est différent de celui qui fait l'objet de la publication, mais je crois qu'on est sur un des bras de la spirale. Donc la Voie lactée est une galaxie spirale, je crois qu'on est dans le bras d'Orion sur les bordures extérieures, dans la partie extérieure du disque en fait.
Donc on est déjà en périphérie de cette galaxie, et alors ensuite, toutes ces galaxies, comment vont-elles s'organiser les unes par rapport aux autres ?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas vraiment à l'échelle du superamas. Donc on vient de parler des groupes de galaxies, c'est des groupes assez lâches de galaxies qui restent ensemble. Ensuite, il y a le vide, un vide un peu plus poussé. Et puis, il y a ce qu'on appelle des amas. Alors ça, les amas, on sait très bien ce que c'est. C'est plutôt des groupes où il y a de l'ordre du millier de galaxies. Et elles restent toutes ensemble aussi parce que la gravitation qu'elles génèrent, en fait, peut compenser l'expansion. Ensuite, la structure d'après. Donc nous, on habitait depuis 50 ans, en tout cas, on pensait habiter dans le superamas qui contient notre groupe, d'autres groupes de galaxies, et puis l'amas de la Vierge, un gros amas de 1000 galaxies qu'on appelle d'habitude plutôt l'amas Virgo, et qui nous attire à lui. Parce que dès qu'il y a des grandes masses comme ça, il y a la gravité qui joue. Et donc, les galaxies ne sont pas immobiles dans l'univers. Elles passent leur temps à voler d'un endroit à l'autre, attirées irrémédiablement par le puits de potentiel le plus fort. Donc, on savait bien qu'on habitait dans une sorte de superamas, mais on en avait du mal à définir les contours parce que c'était de la cartographie statique.
Alors, comment vous y êtes pris, vous, justement, pour réussir à définir beaucoup plus précisément les contours de cet amas, de ce superamas de galaxies ?
Alors, on a lancé une grande campagne d'observation à partir de 2006 avec l'avènement des nouveaux radiotélescopes géants, en fait. Donc, on ne pouvait pas le faire avant. Et en 2006, donc, on a créé ce projet qui s'appelle Cosmic Flows, les flux de galaxies cosmiques. Et on en s'est mis à observer énormément sur tous les télescopes accessibles. Il faut qu'on observe à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud pour pouvoir cartographier en 3D autour de nous. Donc on a utilisé des radiotélescopes géants qui sont à Green Bank en West Virginia, qui sont en Australie, qui sont à Arecibo sur l'île de Puerto Rico. Ces radiotélescopes géants, il faut voir que c'est par exemple des antennes qui font 110 mètres de diamètre. C'est comme un stade de foot, mais c'est une antenne parabolique que l'on contrôle et qui nous permettent de mesurer la distance et la vitesse des galaxies en dehors de l'expansion.
Et combien de galaxies avez-vous pu répertorier, suivre ainsi avec ces gigantesques instruments qui font la taille d'un stade de foot, hein, vous venez
voilà.
de le dire.
Même à Arecibo, c'est 300 mètres de diamètre, c'est encore plus grand qu'un stade de foot.
Ouais.
Donc on a aujourd'hui dans notre base de données qui est accessible à tous les chercheurs du monde, 16 000 galaxies très bien mesurées. La publication donc, qui a fait la une de Nature, on utilisait un catalogue qu'on a publié en 2013 qui contient 8000 galaxies dont la distance est très bien connue et dont on peut mesurer la vitesse hors expansion
D'accord.
de l'univers.
Donc vous avez, grâce à ces observations, établi une sorte de catalogue dans lequel vous avez répertorié 8000 galaxies dont on connaît la vitesse parce qu'elles n'évoluent pas toutes exactement à la même vitesse. Donc vous avez pu suivre ces 8000 galaxies. Sauf que vous nous avez dit, ce super amas de galaxies compte 100 000 grosses galaxies de près, et puis des 1 million de petites, hein, si mes chiffres
c'est
sont
ça,
bons.
C'est ça.
Donc vous avez un échantillon de toutes les galaxies qui composent ce super amas de galaxies. Alors comment après on extrapole ? Ça devient peut-être plus le travail à l'ordinateur que vous avez effectué, Daniel Pomarède.
Alors en fait, on a un collaborateur qui est un théoricien et qui est en fait l'auteur d'un algorithme de reconstruction. Donc qui utilise en entrée les vitesses particulières de ces 8000 galaxies et qui donc utilise des vitesses particulières le long de la ligne de visée des télescopes et qui produit en sortie une carte en trois dimensions des champs de vitesse. Voilà. Et l'algorithme que j'ai développé donc sert à visualiser en trois dimensions ces champs de vitesse et à reconstruire les lignes de courant qui se développent le long de ce champ de vitesse.
Mais donc sur cette carte, on voit plus que simplement les 8000 galaxies que vous avez observées. En fait, il y a tout un travail de déduction qui fait voilà. que même ce que vous ne voyez pas, vous le déduisez finalement.
Il y a
finalement.
Une image que les gens ont bien l'habitude de se représenter. Quand on veut faire un jeu vidéo, on va coller des pastilles de couleurs sur le corps d'une personne et puis on va faire du capture motion. On va filmer cette personne en train de marcher, par exemple. Et après, on va pouvoir reconstituer toute la personne et ses mouvements. Donc, nos 8000 points, c'est un petit peu comme si on avait 8000 particules test. Et à partir de ces points-là, on est capable de reconstruire complètement le mouvement dans l'intégrité du volume, en réalité. Mmh. Alors, ces points ne sont pas choisis au hasard. On choisit les galaxies qu'on va observer. Il faut absolument qu'elles tracent les mouvements. Donc, par exemple, si on voulait mesurer la vitesse d'une rivière, le courant dans une rivière, on ne s'intéresserait pas aux brindilles qui flottent ou aux feuilles qui sont prises dans les tourbillons. On prendrait les troncs d'arbres qui descendent les rivières. Donc c'est exactement ce qu'on fait, on prend des grosses galaxies qui sont bien isolées d'autres galaxies qui ne sont pas en interaction mais qui sont en train de descendre le courant. Et donc c'est ces 8000 points-là, on a pris des galaxies qui sont régulièrement espacées, plus ou moins régulièrement, parce que bien sûr on ne les positionne pas sur une grille. Par contre après on fait le calcul d'interpolation, donc comme Daniel l'a dit, avec la méthode de Yehuda Hoffman de l'université de Jérusalem en Israël, on fait l'interpolation sur une grille cette fois-ci. Du coup, l'intégrité du volume est calculée et on peut reconstituer complètement oui. les mouvements de toute la matière.
Et c'est ainsi que vous avez obtenu, alors très concrètement, des images physiquement où l'on voit, alors ça ressemble à des fleuves, c'est très ramifié, on voit des filaments qui se rejoignent et qui s'assemblent pour former de plus en plus gros filaments. On a vraiment l'impression de voir les ramifications d'un fleuve, c'est-à-dire qu'on avait cette image des galaxies en forme de spirale, tout d'un coup on a une autre vision de l'univers bien plus vaste où la petite galaxie n'est plus qu'un point sur ses ramifications. Il faut voir en fait l'univers, en tout cas les amas de galaxies, comme c'est des grands fleuves ramifiés.
Oui. Et justement, on utilise l'analogie que vous êtes en train de développer, c'est l'analogie des bassins versants, c'est-à-dire les bassins alluviaux qui permettent de définir. Si vous prenez une goutte d'eau qui tombe quelque part sur le territoire français, elle finira par aboutir soit dans la Méditerranée, soit dans l'océan. Et ça, cette technique des bassins, ce concept des bassins versants, on l'a donc utilisé pour définir les superamas de galaxies, au sein desquels, effectivement, on voit cette structure en ramification, ouais. avec des petits ruisseaux qui conduisent à des fleuves qui finissent par arriver au grand attracteur.
Alors cette métaphore, cette image des bassins versants et des fleuves qui se rejoignent pour former de plus en plus des fleuves de plus en plus importants, elle est très parlante. Il y a quand même quelque chose qui surprend. C'est-à-dire que lorsque on est sur un réseau hydrographique, pardon, oui. C'est la gravité qui fait que l'eau s'écoule et passe du plus haut ou du point le plus haut au point le plus bas. Là, dans l'univers, oui. on évolue dans le vide. Qu'est-ce qui génère ces courants, ces flux de matière que suivent les galaxies?
Là, on peut poursuivre l'analogie, c'est simplement une différence de potentiel. Là, vous venez de le décrire, la gravité fait couler l'eau. Et là, de la même manière, c'est la gravité, c'est la seule force qui joue sur le mouvement de ces galaxies et sur l'existence de ces courants cosmiques.
Ouais, mais Hélène Courtois, oui. où vont-ils tous ces courants cosmiques, ces flux de matière qui emportent nos galaxies?
Donc, on est en train de parler de flux de matière qui sont hors expansion. Bien sûr, l'univers est en expansion. Donc, si elles sont assez proches, elles se rentrent dedans. Hein. Deux galaxies, c'est la vie des galaxies, de se rentrer dedans et puis de fusionner.
Quand deux galaxies se rencontrent, qu'est-ce qui se passe?
Alors elles fusionnent, elles deviennent une plus grosse galaxie, elles ont des flambées d'étoiles à ce moment-là, et puis du coup elles sont encore plus jolies, elles deviennent encore plus spirales, elles ont plein de couleurs, etc.
Quand est-il prévu que notre galaxie, la Voie lactée...
fusionne avec Andromède? Alors ouais. on va se rentrer dedans avec Andromède. Ça,
c'est pas pour demain, hein, on rassure quand même.
Non, enfin, ça dépend ce que vous appelez demain. À l'échelle astronomique, pour nous, tout peut arriver. C'est pas du tout pour le temps d'une vie sur Terre, et puis c'est pas du tout le temps d'une étoile, comme notre étoile. Notre étoile sera éteinte avant que la Voie lactée et Andromède fusionnent. Mais
donc c'est
actuellement,
dans plus de 4 milliards d'années, alors.
Milliards d'années, oui, c'est ouais. ça, vous avez raison. Mais par contre, la Voie lactée est en train d'en cannibaliser une. Actuellement, on est en train de rentrer dans une galaxie, ou une galaxie est en train de nous rentrer dedans, si vous voulez, mais ça ne fait rien du tout au système planétaire ou stellaire. C'est-à-dire que ça ne va pas perturber notre système planétaire. Il ne faut pas que les gens se mettent à paniquer. c'est pas le propos. Deux galaxies, les galaxies, c'est leur vie. Voilà. Elles accrètent de la matière autour d'elles, du du matériau, elles recyclent le matériel et elles font de nouvelles étoiles. Nous, si on a de l'uranium sur Terre, c'est qu'on est déjà issu de plusieurs générations d'étoiles.
On va revenir sur ce point, de cette image de l'univers en expansion dont on parle souvent. Et là, cette idée que certaines galaxies convergent les unes vers les autres, on va avoir l'occasion d'en reparler dans la suite de cette émission. On poursuit notre exploration cosmique dans La Tête au Carré avec Hélène Courtois et Daniel Pomared, qui vont répondre dans un instant aux questions que vous leur adressez sur la page de l'émission, sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag L'Attaque. C'était Portiched, Glory Box sur France Inter dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
On s'intéresse à l'Aniakea, ce super amas de galaxies dans lequel se trouve notre galaxie, la Voie lactée. Pour la première fois, des scientifiques sont parvenus à le reconstituer en trois dimensions. Parmi ces scientifiques, Hélène Courtois de l'Université de Lyon et Daniel Pomared du CEA de Saclay. Et en découvrant ce véritable continent cosmique, est-ce que tous les deux, vous avez l'impression d'être un peu des explorateurs, des Christophe Colomb du 21e siècle?
Ah oui, oui, tout à fait. C'est l'impression qu'on peut avoir, oui, oui.
Vous avez vraiment l'impression de ne pas mettre le pied, mais en tout cas mettre un œil là où personne n'avait
réussi. C'est ce qu'on fait tous les jours déjà avec l'observation. Hein, quand on voit arriver une donnée, moi, un spectre d'hydrogène neutre d'une galaxie, quand je sais que je suis la première à l'avoir observé, ça me fait quelque chose.
Ah oui, c'est vrai.
Et là, depuis un an, on a commencé à sentir qu'on touchait du doigt quelque chose de nouveau. Bien sûr, on a fait tourner les tests des centaines de fois. On a recalculé, revérifié les les observations, etc. Mais de plus en plus, la définition de l'objet devenait claire. Et c'est vrai que l'excitation est montée, ça n'a pas arrêté.
Comme l'objet devenait clair, il a fallu lui donner un nom, l'Aniakea. Pourquoi ce nom, Daniel Pomared ?
Alors l'histoire, en fait, c'est notre collaborateur de l'université d'Hawaï, à Honolulu, part en fait pour rendre hommage au navigateur polynésien qui était capable de naviguer sur des milliers de kilomètres et de tomber pile sur les îles sur lesquelles il voulait se rendre, en fait. On s'est dit qu'on est un peu comme des navigateurs, nous-mêmes. Alors, on va essayer de rendre hommage à cette culture. Donc, il est allé voir un professeur de langue de l'université Kapiolani, qui est une des plus grandes universités de l'État de Hawaï. Celui-ci lui a proposé différentes options pour un nom, y compris des noms à rallonge, des noms vraiment qui constituent une phrase entière en hawaïen. Et finalement, il y a eu quelques possibilités. Et puis, finalement, on a choisi l'Aniakea,
qui signifie
Horizon céleste immense.
Ouais, c'est superbe. Et comment on appelle les habitants de l'Aniakea ?
Alors, nous sommes tous des Laniakéens, en fait. c'est comme
joli.
Ça qu'on dit. Et donc, on a choisi ce nom, Horizon céleste immense, parce qu'à l'intérieur de ce nom, cela correspond exactement à ce qu'on observe, un horizon, c'est-à-dire qu'on a délimité les contours de ce continent. Donc, dans le mot horizon, il y a bien la notion de frontière. Céleste, parce que c'est un objet qui est dans les cieux, et il fallait se détacher de la planète sur laquelle on vit. Et puis immense, parce qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait être une grande structure dans l'univers auparavant. Là, on a mesuré qu'il était 100 fois plus grand que ce que l'on appelait de façon historique depuis 50 ans le super-amas local. Et il contient beaucoup plus de masse aussi. Donc c'est une définition qui est complètement différente de la définition d'avant, qui était une définition statique, c'est-à-dire qu'on regardait s'il y avait un paquet de galaxies à un endroit dans l'univers, alors que maintenant on cherche un ensemble de galaxies qui convergent toutes vers le même endroit, à l'intérieur d'un volume. Et comme ça, on peut définir la ligne de partage des eaux sur tout autour de ce continent. Les galaxies viennent vers l'intérieur, alors que dès qu'on franchit cette ligne de partage des eaux, elles vont vers d'autres super-amas.
Alors, pour bien comprendre cette métaphore, il faut avoir en tête ce que c'est que la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire ça sépare deux bassins versants. Quand vous avez une goutte d'eau qui tombe d'un côté de cette ligne, elle va aller alimenter des ruisseaux, puis ensuite un fleuve plus grand pour aller jusqu'à la mer. Et quand elle tombe de l'autre côté de cette ligne, c'est un autre bassin versant qu'elle va aller alimenter. Là, on a un peu cette idée qu'une galaxie qui tombe d'un côté ou de l'autre de cette frontière virtuelle va aller alimenter un courant de galaxies différents.
C'est ça. Alors, elle ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. En fait, elle est attirée par la gravitation d'un côté ou de l'autre, par la gravitation des autres galaxies par la matière qui est englobée dans ces super-amas.
C'est la question que vous pose Christophe sur Twitter. Est-ce que c'est la gravité qui explique cette concentration de matière ? C'est le moteur de tous ces courants ? C'est la gravité ?
Tout à fait. À cette échelle-là, en fait, les lois qui jouent... Donc, Daniel travaille à l'Institut... de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Donc là, notre travail à nous, c'est de la recherche fondamentale. Et en fait, on essaye de comprendre là où se contrebalancent l'expansion et la gravitation. Ce sont les deux grandes lois qui agissent à cette échelle-là. Donc les galaxies se rendent dedans si elles sont assez proches et si elles sont assez attirées de façon gravitationnelle l'une l'autre.
Alors,
Donc là, tout ce bassin versant, en fait, c'est un puits de potentiel gravitationnel.
Une autre question qui arrive sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Est-ce que toutes les étoiles sont regroupées en galaxies et toutes les galaxies sont-elles aussi amassées comme ça sous forme d'amas de galaxies ?
Donc effectivement, toutes les étoiles, en fait c'est un peu la définition, c'est-à-dire qu'un paquet d'étoiles c'est une galaxie, on ne connaît pas vraiment des étoiles qui vivent seules en dehors d'une galaxie.
Question. On n'imagine pas une étoile solitaire.
C'est comme si vous me disiez, est-ce que les cellules humaines vivent en dehors de l'humain ? Je vous dirais, mais la définition de l'humain, c'est l'ensemble de ses cellules. Donc...
Mais il existe des organismes monocellulaires, donc on pourrait imaginer qu'une étoile erre comme ça, toute seule, dans le cosmos, attirée par rien, Daniel Pomared.
Alors, le cas que vous décrivez, je ne crois pas qu'il soit répertorié. Par contre, des galaxies solitaires, ça c'est connu. Par exemple, notre collaborateur d'Hawaï, Brent Tully, il est le spécialiste de ce qu'on appelle le vide local, qui est un immense vide, en fait, en bordure de laquelle se trouve la Voie lactée. Et donc, dans ce vide, on connaît une galaxie isolée qui se déplace et qui se dirige vers les, vers les parties extérieures du vide, disons. Mmh. Et c'est le cas, on en observe.
Ah, il y a au moins ce cas-là qui est répertorié. Alors, on va revenir sur cette idée de grand attracteur, qui est une notion que les astrophysiciens ont imaginée il y a une trentaine d'années. Oui. C'était un petit peu le point vers lequel toutes ces galaxies convergeaient, ces ruisseaux qui formant de plus en plus grands fleuves, puis rivières, convergeaient vers un point qu'ils avaient nommé le grand attracteur. On imaginait un amas de matière noire sphérique. Est-ce que vos dernières observations vont dans ce sens-là?
Voilà, alors moi je connais bien ce sujet du grand attracteur parce que j'ai fait ma thèse en 1995 sur ce sujet-là. Oui. Et à l'époque, c'était le bord des observations qu'on avait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'observait pas assez loin. On n'avait pas encore d'assez bonnes observations pour vraiment comprendre ce que c'était que le grand attracteur. Sachant que pour nous, physiciens, c'était vraiment un nom qui était descriptif. C'est-à-dire que c'est grand parce que c'était forcément lourd par la gravitation, comme demandait l'interlocuteur tout à l'heure. Et puis, donc c'était grand et c'était attracteur. Donc c'était le grand attracteur. Après, c'est devenu un petit peu mystérieux. C'est devenu un nom un peu ronflant. Aujourd'hui, le grand attracteur, donc on va toujours... Toutes les galaxies, la nôtre et toutes celles qui sont autour de nous, vont dans cette direction bien précise dans l'univers, à cette vitesse faramineuse. Mais aujourd'hui, on voit presque 2 à 3 fois plus loin que le grand attracteur. Du coup, on voit la fin de ce mouvement, plus ou moins, et le retour, c'est-à-dire les galaxies qui viennent dans l'autre sens. Alors, ce grand attracteur, qu'est-ce que c'est? C'est pas un objet sphérique, complètement mystérieux, fait uniquement de matière noire. Il y a beaucoup de galaxies à cet endroit-là, au moins 13 amas. Donc, on a dit des amas, ça contient au moins 1000 galaxies, par exemple. Donc, 13 amas riches de galaxies dans cette région. Mais surtout, si on veut reprendre l'analogie des bassins versants, il s'agit d'une sorte de vallon plat, très large et très long. C'est un peu comme une série d'attracteurs. Mmh. C'est pas un objet. Une autre analogie, c'est un petit peu si on imagine le fond d'une baignoire plate. En fait, on ne voit pas le point le plus bas, la bande de sortie de l'eau d'une baignoire. Pourtant, toute l'eau va s'écouler par cet endroit-là, mais on voit que c'est complètement plat. Et donc, cette vallée gravitationnelle dans laquelle s'écoulent les galaxies, ouais, c'est un petit peu ça, le grand attracteur. Ouais.
Une vallée gravitationnelle plutôt qu'un grand attracteur. Dans tous les cas, ça reste assez poétique.
C'est magnifique.
Vous nous faites rêver. Mais alors... À l'arrivée, Daniel Pomared, quand toutes ces galaxies auront convergé, qu'est-ce que ça va donner?
Et après, il y a la suite. Est-ce qu'on a tout inclus là-dedans? Ça sera probablement la question à laquelle il va falloir répondre avec l'avènement des prochains catalogues de galaxies. Et on a des indices qui nous disent qu'il y a encore un mouvement résiduel vers un objet qui se trouve encore plus loin.
Mais est-ce qu'il n'y a pas là quand même une contradiction? Cette idée que ces galaxies convergent, se rejoignent, on l'a un peu dit, mais on n'a pas assez insisté dessus, avec le fait que depuis toujours, ou en tout cas depuis quelques années, on répète que l'univers est en expansion, qu'il ne cesse de grandir, que les astres s'éloignent les uns des autres. Et tout d'un coup, dans cette vision que vous nous apportez, on a l'impression que tout converge.
Oui, alors comme Hélène l'expliquait, il y a deux facteurs qui sont en jeu et qui s'opposent, donc l'expansion et la gravitation. Et pour cette étude, on a soustrait l'expansion. Peut-être, Hélène, tu veux développer là-dessus?
Voilà. Alors, le Laniakea, c'est un objet qui est défini. Donc, c'est pour établir une définition de ce que c'est qu'un superamas. Il faut que toutes les galaxies... leur mouvement propre, c'est-à-dire une fois l'expansion retranchée, converge vers l'intérieur du volume. Si on rajoute l'expansion, bien sûr, il est en train de se disperser, le Laniakea, parce que l'expansion des galaxies à cette distance-là, c'est de l'ordre de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Elles vont à 10 000 kilomètres par seconde dans l'expansion, mais elles reviennent gravitationnellement, par exemple, à 400, 600 km par seconde. Donc, c'est résiduel, en fait. Donc, l'image qu'on donne là, oui, ça s'appelle une image qui est en coordonnées comobiles. On a enlevé l'expansion. Si on prenait aujourd'hui, à un instant T, hors expansion, une image, et qu'on regarde ce que font les galaxies gravitationnellement, elles font ça. Elles convergent vers l'intérieur.
Mais est-ce que, du coup, cette image a une réalité physique? Ou est-ce que, puisque vous avez fait abstraction de l'un des déplacements, de l'une des composantes, oui, ça n'est qu'une façon de se représenter les choses, mais qui n'a pas de réalité physique? C'est-à-dire que si quelqu'un pouvait voir ce super amas de galaxies, est-ce qu'il verrait ça?
Alors, on peut le voir, hein, si on s'y intéresse. On peut regarder depuis la Terre et observer... alors, il faut quand même un petit peu des télescopes, mais on peut observer les galaxies qui sont nos amis, nos copines, à l'intérieur du Laniakea,
ouais,
les plus proches. Donc, observationnellement, on peut tout à fait dire que cet objet existe gravitationnellement. C'est juste une histoire de dans quel repère on se met. C'est comme, prenons l'exemple d'un homme qui court dans un train. Dans le TGV, par exemple, il ne va jamais courir à la vitesse du TGV. Et je ne vais jamais vous dire, cet homme va plus vite que la vitesse du TGV, par exemple. Ouais. Donc, ce que je suis en train de vous décrire, c'est la vitesse à laquelle, lui, il court à l'intérieur du train. J'ai ôté la vitesse du TGV.
Ah, très bien, on comprend. Vous aimez bien les images, mais ça fonctionne bien entre la baignoire plate voilà. Et puis le TGV avec les
Mais j'aimerais les que tout le monde comprenne ce que c'est que le Lagniaquea. Oui.
Alors, le Lagniaquea, quel pourcentage de notre univers occupe-t-il? C'est-à-dire, combien y a-t-il de supercontinents comme celui-ci dans notre univers? Daniel Pomared.
Alors, donc, il faut comparer les dimensions de l'objet qu'on a déterminé par rapport...
Qui est déjà immense. Déjà, oui. ça défie l'entendement. Alors, si vous nous dites qu'il y en a encore un paquet autour...
Il faut le comparer avec la taille de l'univers observable. Hein. Ouais. Hélène, qui est de...
Oui, de 45 milliards d'années-lumière, à peu près.
Voilà. Et sur ces... Donc, c'est 0,5%.
Alors, c'est 0... Donc, la taille du Lagniaquea, c'est 0,5% en longueur de l'univers observable aujourd'hui. Donc, ça paraît déjà gros parce qu'en fait, en volume, c'est quelques millièmes de l'univers. Là, la cartographie, alors reparlons au moins en longueur parce qu'on arrive dans les pourcentages au lieu d'être dans les millièmes, mais en pourcentage, la cartographie d'aujourd'hui, elle est de l'ordre de 1 à 2%. On est vraiment en train de faire de la cartographie, mais je ne sais pas, de la région parisienne, on n'en est même pas trouvé à la Méditerranée ou les monts du Lyonnais si on est autour de Lyon. C'est vraiment une petite cartographie
aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut donner une réponse précise à Thomas qui nous demande sur Twitter, sait-on combien il y a de super amas de galaxies dans l'univers?
Alors, on ne sait pas combien il y en a parce que nous, on en connaît 5, le Lagniaquea compris. Le Lagniaquea, compris. On en connaît 5. On n'a pas encore réussi à cartographier l'arrière des autres. Mais ça va venir hein, dans les années qui viennent. Ça, je peux vous le promettre qu'on connaîtra ces 5-là. Par contre, on peut calculer si ils ont tous à peu près le volume du Lagniaquea. Il y a de la place pour 6 millions de Lagniaquea dans l'univers.
C'est vertigineux parce qu'on a commencé par dire qu'au sein du Lagniaquea, notre Voie lactée, donc la galaxie dans laquelle nous ne sommes déjà qu'un grain de poussière, notre Voie lactée est un petit brin de paille hein, dans ce Lagniaquea. Oui. Et là, vous nous dites, en fait, les Lagniaquea, ça n'est que 1 sur 6 millions.
C'est ça. Alors, on a essayé de trouver une analogie, hein, parce qu'on comprend bien que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme nous, de travailler sur des cartographies qui font des millions d'années-lumière, c'est difficile de se représenter. Ça a été très difficile de trouver une analogie. Même si je prends la Terre, la taille d'un grain de sable, c'est toujours très, très grand, la distance. Alors, il y en a une d'analogie. Il faut que les gens fassent un petit effort quand même conceptuel. C'est-à-dire que si je prends la Terre et que je la mets à la taille d'un atome, donc il faut déjà réussir à imaginer ce que c'est que la taille d'un atome, alors le Lagniaquea est de la taille de la Terre. Donc si on se place du point de vue d'un atome,
le
Lagniaquea est de la taille de la Terre.
On a les mêmes difficultés à concevoir l'infiniment petit qu'à concevoir l'infiniment grand.
Mais il faut vraiment descendre dans les 10-10 pour réussir à remonter.
Toute dernière question déjà, malheureusement. Est-ce que cette découverte a modifié votre perception du monde? Est-ce qu'on relativise plus les tracas du quotidien quand on a conscience d'être ce tout petit rien dans ce grand tout?
Alors moi, j'engage tout le monde à s'éduquer parce qu'on relativise tous les tracas du quotidien quand on a l'esprit ouvert et les yeux sur les étoiles, c'est certain.
Daniel Pomared.
Oui, on a l'impression de participer à un mouvement historique comme ça de cartographie du cosmos. Hein. Et c'est vraiment exaltant. Hein.
Merci Hélène Courtois et Daniel Pomared et bravo pour votre belle découverte.
Merci. Merci.
Dans un instant, Florence Porcel arrive pour un quiz scientifique. Ce sera juste après Rodrigo Amarante à Hourglass sur France Inter.
To find the one you've always claimed to me.
C'était Rodrigo Amarante dans La Tête au Carré. La programmation musicale est signée Jean-Michel Montu. Et c'est l'heure de tester vos connaissances scientifiques avec le quiz de La Tête au Carré. Bonjour Florence Porcel.
Bonjour Daniel.
Nous jouons, comme tous les jours, avec deux auditeurs, Mathieu et Philomène. Aujourd'hui, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Mathieu, vous avez 28 ans, vous appelez de Bastia et vous êtes assistant d'éducation.
C'est ça.
Et Philomène, 26 ans, à Grenoble, dans l'Isère. Vous êtes doctorante. Dans quel domaine faites-vous votre thèse ?
Alors, je travaille sur les risques naturels et particulièrement sur les avalanches de neige.
Les avalanches de neige, très bien. Alors Florence, cette semaine, nous avons pour partenaire les éditions Le Robert. Que vont gagner nos candidats ?
Eh bien, ils vont gagner, enfin le candidat qui gagnera aura un correcteur orthographique. Et bah, évidemment, c'est celui qui aura le plus grand nombre de points qui le remportera.
Et on commence, comme toujours, avec la question d'actualité. Demain, une équipe d'astronautes reviendra sur Terre après une mission dans la Station Spatiale Internationale. Mais leur capsule ramènera également des résultats d'expérience, dont une un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une expérience sur un alcool. De quel alcool s'agit-il ? Vous avez 30 secondes.
Oui, un alcool dans l'espace.
Bah, tentez votre chance, hein, Mathieu, Philomène.
Du vin ?
Non, ce n'est pas du vin.
Un alcool plus fort.
Du cognac.
Non.
Non.
Du whisky.
Du whisky, Philomène. Ah.
C'est bon. Eh oui, le capitaine Haddock avait lui aussi déjà commencé quelques expériences sur le whisky dans la fusée lunaire. Cette fois-ci, c'est peut-être un poil plus sérieux.
Oui, bah oui, effectivement, un flacon de malt et du bois de chêne ont été envoyés à bord de l'ISS pour essayer de comprendre comment les parfums se développent en microgravité par rapport à un échantillon resté au sol. Et c'est plus précisément une étude sur les terpènes des hydrocarbures aux propriétés odoriférantes produits par certaines plantes qui ont été menées. Alors les chercheurs vont donc pouvoir commencer à comparer les deux whiskies.
Et nos candidats aussi envoient quelques jingles pendant nos explications. Où en est pour les points donc ?
Eh bien c'est Philomène pour l'instant qui a 10 points.
Passons maintenant aux questions de rapidité où vous allez devoir répondre le plus rapidement possible à cette question classée dans un ordre croissant de difficulté.
Voilà, et je rappelle que si une question pose problème, on peut passer à la suivante et y revenir après. Hein. N'hésitez pas à nous dire.
Vous avez 1 minute 30, c'est parti. De quelle figure se sert-on pour ranger et classer les êtres vivants ? Allô ? Pardon ?
Quelle figure ?
Ouais, une figure. Il peut être généalogique.
L'arbre.
Voilà. Grâce à quel élément de mesure détermine-t-on l'acidité d'une solution ?
Le pH.
Oui, le pH, tous les deux.
Tous les deux.
Quel mathématicien français a reçu la médaille Fields en 2010 ? Mathieu Vidard l'a souvent reçue.
Cédric
Villani ? Oui. Dans quelle substance fossile peut-on trouver de vieux insectes ?
L'ambre.
Le carbone.
L'ambre, Mathieu, c'était
voilà,
bon.
Qui a vu Jurassic Park apparemment. Comment s'appelle le prochain astronaute français à partir dans l'espace ?
Aucune idée.
Pas d'idée, Mathieu ? Non ?
Non.
On passe à la suivante.
Comment appelle-t-on l'acte chirurgical qui correspond à l'ablation d'un sein ?
Non.
Qui correspond
la mastectomie.
Oui, c'était la mastectomie, Mathieu.
Qui a dit ce que j'ai fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait ? C'est la question la plus difficile.
Ce que j'ai fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait ?
Oui.
Armstrong ?
Non, ni l'un ni l'autre.
Buffon ?
Non plus.
C'est un aviateur. On a le droit de le dire, ça, Florence ?
C'est
un aviateur.
C'est dit. J'ai pas... Philomène, vous avez dit quoi, pardon ? Non. Non, mais pas loin. Non plus.
C'est la fin du chrono. Pas facile, c'était la septième question. Hein. C'est le jeu, la septième question est toujours la plus difficile. Alors, qui a dit ce que j'ai fait ? Jamais aucune bête ne l'aurait fait.
Eh bien, c'était Henri Guillaumet, un pionnier de l'aérospatiale. Voilà, il a dit ça alors qu'il a marché une semaine dans le froid de la cordillère des Andes après s'être crashé.
Et la cinquième question, comment s'appelle le prochain astronaute français à partir dans l'espace ?
C'était Thomas Pesquet.
Alors, on en est où pour les points, Florence ?
Alors, pour cette manche, eh ben, Mathieu a 20 points avec 4 bonnes réponses et Philomène a 10 points avec 2 bonnes réponses.
Vous allez à présent jouer l'un contre l'autre. On vous a donné un mot hors antenne qu'il va falloir faire deviner à votre adversaire.
Voilà, et ensuite vous échangerez les rôles, évidemment.
C'est parti, Philomène, vous avez 45 secondes pour faire deviner votre mot à Mathieu.
Très bien. C'est un adjectif qui se dit en fait d'un organisme qui vit dans des conditions dans lesquelles d'autres organismes ne pourraient pas vivre.
Thermorésistant ?
Ah, c'est pas loin, mais c'est pas ça.
Alors, à la fin, ça se termine comme quand on aime quelque chose en grec, la fin du mot pour aimer.
On en trouve au fond des mers, là où il y a des pressions extraordinaires. On en trouve dans les volcans également, à proximité des cratères. Ils aiment les conditions extrêmes, ces organismes.
Ils les aiment, donc c'est des thermos.
Pas forcément la chaleur, ça peut être la pression aussi qu'ils aiment, ça peut être le froid auquel ils résistent.
Extrémophile.
Et oui, sur le fil, extrémophile. Ce sont donc ces organismes qui vivent dans des milieux extrêmes, là où les conditions de vie sont mortelles pour la plupart des autres organismes. Bravo Mathieu, in extremis, c'était donc les extrémophiles. À votre tour, Mathieu, vous êtes prêt ?
Je suis prêt.
C'est à vous donc, vous avez 45 secondes.
Alors c'est un astre, c'est quelque chose qu'on peut observer dans le ciel en astronomie. Donc c'est quelque chose d'assez diffus, constitué de gaz très très lointain, qui peut prendre beaucoup de couleurs. Non, qui peut prendre beaucoup de couleurs.
Non.
Non, c'est un nom féminin. Ça peut se dire d'un adjectif en météorologie quand on parle de nuages. Qu'on trouve qu'un ciel est très couvert.
C'est composé de gaz. Il y a des très belles photos, notamment Hubble qui a pris des photos superbes. Oui ! C'est bien la nébuleuse, Philomène, un objet céleste composé de gaz et de poussière interstellaire. Qui est le gagnant d'aujourd'hui, Florence ?
Il n'y en a pas, ils sont tous les deux ex aequo avec 30 points.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
Eh bien, on pose une question subsidiaire. À combien de kilomètres correspond une année-lumière ?
Mathieu, Philomène ?
300 millions de kilomètres.
300 millions pour Mathieu, Philomène. Ce sera le plus proche qui l'emportera.
3,2 10 puissance 9 kilomètres.
Ça fait 3,2 milliards. Hein.
Ouais.
Eh bien, c'est Philomène qui remporte le jeu, puisque une année-lumière équivaut à 10 000 milliards de kilomètres. Vous en étiez loin quand même.
Ouais.
Oui.
On rappelle, hein, voilà. L'année-lumière, c'est donc la distance parcourue par la lumière en une année.
Voilà.
Donc ça fait
10 000 milliards
de kilomètres. C'est vous dire si la vitesse de la lumière est importante. Bien donc, toutes nos félicitations à Philomène. Vous repartez donc avec le correcteur orthographique des éditions Le Robert.
Voilà, c'est un logiciel de correction et d'aide à la rédaction qui explique vos erreurs pour ne plus faire de fautes. Ça vous aidera peut-être pour votre thèse.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Et puis merci à vous et à Mathieu d'avoir joué avec nous. Au revoir à tous les deux.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Pour jouer à notre quiz, vous vous rendez sur la page de l'émission sur la tête au carré sur franceinter.fr. Florence, on vous retrouve lundi pour un nouveau quiz scientifique avec Mathieu Vidard.
Oui, merci à vous Daniel.
Et juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles. Bonjour Fabrice.
Bonjour Daniel Fiévet.
Alors sur quelle affaire vous revenez aujourd'hui ?
La bataille des OGM, elle n'est pas liée à une date précise. C'est un combat entre les pour et les contre qui se mène depuis 25 ans. C'est une affaire très sensible car c'est une question de civilisation. Notre invité, ce sera le plus célèbre des anti-OGM en France, José Bové, eurodéputé.
Ah oui, ça s'annonce passionnant et c'est dans quelques minutes sur l'antenne de France Inter.